Depuis le début de la crise économique, de plus en plus nombreux sont les enfants qui grandissent dans des foyers où aucun parent ne travaille. Ces enfants auraient des difficultés importantes à sortir d'un tel environnement. La question du jour, c'est la suivante. La pauvreté se transmet-elle d'une génération à l'autre? Pour essayer d'y répondre, Anne-Sophie Brun-Hundonx, nous recevons Christine Mailly, secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté.
Bonjour Christine Mailly.
Bonjour.
Alors pour poser cette question, nous sommes en fait partis de chiffres concernant les enfants qui vivent dans des foyers où aucun des deux parents ne travaille. Mais pour beaucoup de nos auditeurs ce matin, il n'y a pas que la famille qui joue un rôle dans cette problématique, il y a aussi l'école. Jean-Nicolas nous écrit sur Twitter, hashtag matin 1, oui, la pauvreté persiste dans les générations, la richesse aussi, notre système scolaire inégalitaire en est une cause importante. Pour Roland, sur la page Facebook de Matin Première, les obstacles sont multiples, même le décret inscription ne fait qu'empirer les choses et pourtant, dit-il, beaucoup se joue à l'école. Je vous propose aussi d'écouter Marie, elle nous appelle de Genappe.
Je pense bien qu'elle est héréditaire. En fait, l'école est un outil pour combattre la pauvreté, mais elle ne le fait pas. En fait, si vos enfants ont des difficultés à l'école, si on a des moyens, disons, on peut toujours pallier à cette insuffisance.
L'école est un outil pour combattre la pauvreté, mais elle ne le fait pas. Voilà ce que nous dit Marie. Quel est votre avis là-dessus, Christine Mailly?
La première chose, c'est que je suis déjà contente d'entendre que les auditeurs disent ce n'est pas la famille qui s'évertue en quelque sorte à reproduire la pauvreté. La pauvreté, elle se produit ou elle n'arrive pas à s'éviter. Et elle n'arrive pas à s'éviter si effectivement les dispositifs organisés par la société ne régulent pas les inégalités.
Parmi ces dispositifs, il y a l'école.
Et l'école en est un dispositif extrêmement important par lequel tous les enfants passent de façon obligatoire à un moment donné jusqu'à 18 ans. Et effectivement, on sait que notre école n'est pas réductrice d'inégalité. Elle fossilise plutôt les différences. Elle stigmatise parfois davantage les enfants qui ont des difficultés ou les ménages, en tout cas, dans lesquels ils vivent, alors qu'elle devrait pouvoir remplir une mission différente. Donc, il est très, très important de se dire comment faut-il réformer cette école pour qu'elle atteigne cet objectif.
Et quel est votre avis là-dessus? Comment la réformer?
Mon avis, c'est qu'en tout cas, il y a des chantiers qui sont sur la table pour le moment. Il y a longtemps que des experts divers ont déjà dit différentes choses, que l'importance de la bonne accroche dans l'enseignement maternel est fondamental, un tronc commun est fondamental, le fait d'être accueillant à toute la diversité est fondamental, il y a des tas de chantiers ouverts. Il faut écouter ces experts et il faut écouter aussi les familles concernées par l'exclusion, qui l'ont connue parfois eux-mêmes comme parents et qui la voient se reproduire pour leurs enfants à partir de l'institution
notamment scolaire.
Mmh.
Sur la page Facebook de Matin Première, Annie nous dit oui, la pauvreté se transmet d'une génération à l'autre, une petite touche de solution très partielle serait peut-être d'accorder à ces jeunes la gratuité de certaines manifestations culturelles, musées, sports, un accès à Internet garanti partout aussi pour que ces enfants ne soient pas limités, par exemple, juste à la télévision. Votre avis ?
Alors, toutes ces mesures sont intéressantes et effectivement, le loisir télévision, c'est le loisir le plus gratuit qui existe et donc auquel les familles ont recours et l'accès à la culture et au sport, etc. est très important. Après, je voudrais juste corriger le mot transmettre. Aucune famille ne transmet la pauvreté à ses enfants. Toutes se débattent au maximum pour l'éviter à tout prix. Et elles font le mieux qu'elles peuvent avec les richesses dont elles disposent pour essayer de l'éviter. Et donc cette dame a raison de dire, si la culture joue son rôle, si le monde du sport joue son rôle, si l'accès aux technologies de la communication joue leur rôle, autrement dit, si à partir du service public et de l'investissement privé, on garantit qu'il y a un accès aux enfants dont le ménage est le plus en difficulté sur le plan des revenus, le plus en difficulté sur le plan de sa localisation en termes de logement, est considéré d'une communauté d'origine qui n'a pas été prise assez en compte dans notre pays, etc., alors ça peut contribuer à réduire les inégalités, effectivement.
Certains d'entre vous remettent en cause le monde politique.
Oui, c'est le cas de Martine qui nous a adressé un mail à matin1@rtbf.be. Elle nous dit, de toute façon, le gouvernement préfère poursuivre les pauvres gens plutôt que de mettre en place une vraie lutte contre la fraude fiscale. Si le gouvernement s'attachait vraiment à cette fraude fiscale, l'État aurait les moyens pour s'occuper des personnes précarisées qui ne seraient pas obligées de faire du travail en noir pour vivre et manger. Sur Twitter, Mathieu estime qu'un service public correctement financé peut aider à briser ce lien entre inégalités sur la ligne de départ et d'arrivée. Christine Mailly, le rôle du politique, le financement ?
Je ne peux qu'appuyer les deux interventions. Le rôle du politique est déterminant, effectivement, et le politique a le choix et l'opportunité de décider ce qu'il organise.
Est-ce que le politique fait les mauvais choix ?
Le politique, aujourd'hui, en tout cas, fait les mauvais choix de façon fondamentale au niveau du gouvernement fédéral, mais j'ai envie de dire que les gouvernements précédents n'ont pas toujours compris qu'il était grand temps de prendre sa population dans la totalité en considération et de se demander comment un service public doit être organisé au profit de la réduction des inégalités pour atteindre l'entièreté des populations. Un service public, comme le dit...
Le politique ne s'adresse qu'à une partie de la population.
Mais le politique a tendance, pour le moment, à évaluer l'attitude des gens à l'once de la méritocratie et de la volonté individuelle, et à renvoyer vers la débrouille familiale la capacité à se débrouiller dans la société, comme si les gens qui n'avaient pas d'emploi, c'était eux qui le souhaitaient qu'ils n'aient pas d'emploi. N'oublions pas que ce n'est pas les gens qui ne veulent pas d'emploi, que c'est l'emploi qui s'est éloigné des gens progressivement. Mmh. C'est l'emploi qui diminue, c'est l'emploi peu qualifié qui disparaît, etc. Or, le politique inverse l'analyse et il rend les gens coupables à titre individuel, ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment. Et il a des moyens et des leviers sur lesquels il pourrait agir et décider de faire autrement.
Alors, Christine Mailly, il a été beaucoup question de fatalité ce matin. C'est un mot fort, une fatalité remise en cause, en fait, par certains, comme Fabien qui nous adresse ce message d'espoir. On l'écoute.
Je suis issu d'une famille de 10 enfants. Papa travaillait à la mine. Nous étions pauvres, on peut le dire. Et nous avons vécu comme ça pendant longtemps. Aujourd'hui, le plus jeune de la famille a 46 ans et nous sommes tous propriétaires. Donc voilà, je voulais juste donner un message d'espoir. Ce n'est pas une fatalité.
Il nous reste une petite trentaine de secondes, Christine Mailly. Pour vous, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité.
Ce n'est pas du tout une fatalité, mais attention, l'époque de monsieur n'était pas la même que maintenant. Il y avait de la perspective d'avenir. Aujourd'hui, être dans la pauvreté, c'est ne pas savoir quelle sera la perspective. Et n'étant pas une fatalité, c'est bien agir sur les dispositifs publics qui doivent le changer. Parce que des plus forts, des plus faibles, il y en aura toujours. Et donc, en sauver quelques-uns qui sont dans la grande difficulté parce qu'ils auront la force, le caractère, la volonté, la tête bien faite, il y en aura. Mm-hmm. Mais il y a la masse des autres qui ont besoin que ce soit les politiques structurelles du logement, de l'emploi, du revenu, de l'accès à la culture, de l'accès à Internet, etc., qui soient, de l'école évidemment, ouais, qui soient valablement adaptées pour donner l'opportunité à tout le monde de rejoindre la cour du bien-être et la cour de aller mieux que ne vont leurs parents.
Merci à Christine Mailly. Restez avec nous. Dans une poignée de secondes, vous allez retrouver Rien à ajouter avec Edgar Schotz.
Matin première, jusqu'à 9h.